Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des intendants, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des tout petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu.
Le PowerPoint, c'est moi. Il y en a qui se disaient déjà, j'ai jamais vécu une prédication aussi courte à la RDS. Non, non, non. Ça, c'était juste l'avant-goût et maintenant, c'est la version longue que vous allez avoir. On poursuit dans notre série de l'Avent. Et la série a comme titre « Pourquoi Jésus est-il venu ?» La raison de sa venue. Et ce soir, on a découvert un texte qui nous donne une lumière sur cette question. Et cette semaine, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien avec le texte, puisqu'on a appris la libération du dernier otage français, Serge Lazarevitch, qui était otage au Sahel par le groupe islamiste ACMI. Et je me souviens encore, le 18 novembre dernier, quand les médias relayaient le souhait de sa fille, Diane, qui souhaitait que son père soit libre pour Noël. Et à l'époque, ça paraissait difficilement réalisable. C'est vrai, après tout, il avait déjà passé 3 ans de détention, et pourtant il y avait ce souhait qu'il soit libre pour Noël. Et c'est le cas. Et il y a quelque chose de fort dans les moyens employés, la détermination mise en œuvre pour qu'il soit libre. Pour quelqu'un qui est citoyen français, si c'est votre cas ce soir, vous devriez vous dire, si un jour, et je ne vous le souhaite pas, hein, mais si un jour je devais être otage quelque part dans le monde, je peux me dire qu'en fait, mon pays, le gouvernement français, prendrait la situation au sérieux, suffisamment au sérieux pour considérer toutes les possibilités pour une libération. Alors, faut faire preuve de sagesse, hein, je ne vous invite pas à vérifier, faire une démonstration, mais il y a certainement de la valeur au fait d'être citoyen français dans les moyens employés. Maintenant, il y a quelque chose qui a entaché un peu la nouvelle, vous l'avez peut-être entendu, c'est qu'assez rapidement, on s'est posé la question, mais comment ? Comment ça s'est fait ? La méthode pour le libérer ? Parce qu'il n'est pas resté détenu pendant 3 ans pour être libéré sur un coup de tête. Qu'est-ce qu'il a fallu ? Une rançon ? Et on découvre maintenant qu'en fait, il s'agit d'un échange avec 4 prisonniers djihadistes qui eux-mêmes avaient participé à sa prise d'otage. Et forcément, ça pose des questions. Est-ce que cette libération, elle se fait au prix de la justice ? Est-ce que cette libération, finalement, elle sacrifie la sécurité future d'autres Français ? Et on réalise qu'il y a une difficulté à avoir une libération qui est effectivement belle, grandiose, mais qui coûte cher. On pourrait se demander, est-ce qu'il est possible de goûter à la beauté d'une libération qui a coûté cher, mais sans que la sécurité et la justice soient sacrifiées? Et en fait, c'est ce que l'apôtre Paul présente lorsqu'il parle de la famille de Dieu, de ceux qui ont été adoptés dans la famille de Dieu. Il parle en termes d'une libération, le terme précis, c'est rédemption, libération avec un prix payé, une rançon payée. Et on va tout simplement considérer ce passage en 2 temps. On va voir la condition d'un esclave dans les versets 1 à 3 et la condition d'un enfant de Dieu dans les versets 4 à 7. Au départ, déjà, on peut se demander pourquoi est-ce que l'apôtre Paul entre dans ces images. Est-ce que c'est simplement pour nous faire un peu rêver ? Est-ce que c'est pour toucher nos émotions? En fait, il faut comprendre le contexte plus large de ce passage pour saisir là où il veut en venir. En Galatie, l'apôtre Paul s'est rendu pour annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus. Il a annoncé à des personnes principalement d'origine païenne qu'ils pouvaient être déclarés justes devant Dieu. Malgré leurs péchés, leurs offenses vis-à-vis de Dieu, ils pouvaient être déclarés justes à cause de ce que Jésus a fait pour eux. Ce qu'on appelle en termes théologiques la justification. L'apôtre Paul s'est ensuite rendu dans d'autres régions pour annoncer ce même message. Mais le problème, c'est que des personnes sont venues à sa suite, ce qu'on surnomme les judaïsants, et qui ont annoncé un message qui, finalement, allait en contradiction avec ce qu'il avait annoncé, sans que les croyants de Galatie le réalisent vraiment. C'est quoi cette annonce, ce message qu'ils apportent ensuite? En fait, pour eux, la bonne nouvelle de Jésus, c'est bien, mais on ne peut pas en rester là. Il faut se rattacher à la foi juive, il faut, pour les hommes, se faire circoncire, il faut obéir à toute la loi de Moïse. Et en écrivant ces lignes, quel est l'objectif de l'apôtre Paul? Eh bien, c'est tout simplement de dire, vous étiez esclaves. Vous avez été adoptés dans la famille de Dieu. Pourquoi est-ce que vous voudriez retourner dans l'esclavage? Lorsqu'il est arrivé en France, vous imaginez les premières paroles de Serge Lazarevitch. Imaginez, il arrive sur le tarmac et « Pourquoi est-ce que vous êtes venu me chercher? Pourquoi vous ne m'avez pas laissé tranquille? J'étais très bien en otage. Je commençais à apprécier ma vie d'otage. » Certainement pas, il n'aurait jamais dit une chose pareille. On a entendu plutôt « La vie est belle et j'avais oublié ce que c'était que la liberté. » Et il dit apprécier la moindre petite chose de la vie. Et Paul veut relever le non-sens dans sa question. Vous étiez esclave, vous avez été adopté dans la famille de Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez retourner à l'esclavage? On commence avec la condition d'un esclave pour bien comprendre la condition d'où ils viennent. Alors c'est vrai qu'on réalise qu'on rentre dans un contexte qui est différent d'une autre. Il y a certaines similitudes, mais il y a un contexte éloigné dans le temps et aussi culturellement. Mais on va y entrer. Imaginez la situation d'un fils d'un riche propriétaire. Son père a déjà une maison importante, un domaine vaste. Il a des serviteurs à son service. Il a différentes sources de revenus. Et ce fils, cet enfant, doit hériter à un moment donné de tous les biens de son père. Au temps fixé par le père, et ça rejoint des questions d'héritage aujourd'hui pour un père qui veut donner un héritage à un enfant qui n'est pas encore majeur, il va décider de l'âge auquel cet héritage va être reçu. 14, 20, 25 ans à l'époque, c'était les choix qu'ils avaient. Mais jusque-là, il allait être sous l'autorité d'un tuteur, d'un précepteur qui allait l'éduquer. Et souvent, c'était des esclaves eux-mêmes qui jouaient ce rôle de tuteur. Parfois, cet enfant allait subir la discipline de ce tuteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire qu'à ce moment-là, dans sa vie, il n'est pas différent dans sa condition d'un esclave. Mais après être entré dans cette image, il veut l'appliquer à la vie de ses lecteurs, à la sienne, en disant « Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. » Il y a selon lui un asservissement, un esclavage qui concerne tout le monde, que l'on soit d'origine juive ou d'origine non-juive. Est-ce qu'on est d'accord avec le constat? Est-ce qu'on est d'accord avec le constat que naturellement, spirituellement parlant, on est tous esclaves, que l'on soit d'origine juive ou non juive? Ça fait penser à un échange que Jésus avait eu avec des juifs dans Jean 8, il nous est relaté. Quelque chose qu'eux-mêmes avaient beaucoup de peine à entendre, voici ce qu'on lit. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « vous deviendrez libre » ?» Autrement dit, eux, ils ont beaucoup de peine à accepter l'idée qu'ils sont esclaves. Alors c'est vrai, il y a eu l'esclavage en Égypte, il y a eu aussi, on pourrait dire, l'exil à Babylone. Mais pour eux, ils se disent absolument pas esclaves. On n'a jamais été esclaves. Jésus maintient pourtant qu'ils sont bel et bien esclaves et qu'ils ont besoin d'être libérés. Dans leurs conditions, ils sont sous la loi. Il y a comme un fardeau qu'ils doivent porter, être à la hauteur des exigences de la loi de Moïse, mais qu'ils n'arrivent pas à porter. Ils n'arrivent pas à vivre selon cette loi. Et ils ont besoin d'en être libérés. Mais ce n'est pas simplement des personnes d'origine juive qui ont besoin d'être libérées. L'apôtre Paul parle d'un esclavage aux éléments du monde, et là, ça englobe plus que simplement les personnes d'origine juive. C'est le statut d'esclave pour tout le monde. Et là, quelqu'un pourrait dire, mais moi, je ne suis pas esclave. Et en fait, je conçois tout à fait que des personnes religieuses qui sont attachées à certaines traditions et qui doivent obéir à tel ou tel livre sacré, à telle ou telle loi, là, je conçois tout à fait que ces personnes-là soient esclaves. Mais moi, je ne le suis pas. Certainement pas. Mais pas selon l'apôtre Paul. Et peut-être on pourrait prendre un exemple tout simple et réaliser que, comme les Juifs au temps de Jésus, nous-mêmes, on a de la peine à réaliser qu'on est esclaves. Comme eux, nous-mêmes, on a de la peine à le réaliser. Je pense à une expression que j'ai entendue dans le train l'autre jour. Quelqu'un qui disait de son collègue, c'est un carriériste. C'est un carriériste. La question que je vous pose, c'est, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit, je suis un carriériste? Moi, tout ce qui me préoccupe, c'est ma promotion, ma carrière. Je suis un carriériste. Alors peut-être sous le ton de la blague, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Vous avez entendu quelqu'un dire ça? La catégorie existe parce qu'on parle d'autres personnes qui sont carriéristes. Ils existent, mais soi-même, on ne s'identifie pas comme carriériste. On pourrait prendre la même chose avec le sexe. Ils pensent qu'à ça. Ils pensent qu'à ça. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « je pense qu'à ça, je suis obnubilé par le sexe, je pense qu'à ça ». Et pourtant la catégorie existe. Et on pourrait faire toute une liste de choses. Je me prends trop au sérieux, je ne me prends pas pour la queue de la poire, je fais une fixation sur mon état de santé, je suis trop attaché à l'argent. Ma réussite, c'est toute ma vie. Sans l'amour de ma vie, je meurs. Je suis prisonnier du regard qu'on porte sur moi. C'est vraiment rare, en fait, de trouver des gens qui vont dire une phrase comme celle-là. Et pourtant, chacune de ces catégories existe, n'est-ce pas? Et on pourrait l'identifier chez les autres. Et si on avait à le reconnaître dans sa propre vie? Selon l'apôtre Paul, tous ces esclavages existent et tout le monde est sous un certain esclavage. Chacun d'entre nous a un maître qui domine et qui nous traite mal et de qui on n'arrive pas à se libérer. Une carrière, le sexe, le désir de pouvoir, la réussite, le désir de plaire, le désir d'être reconnu, peut-être même l'indépendance, je veux être indépendant. Je veux dépendre de personne. Ça pourrait être un maître. Pour l'apôtre Paul, c'est l'état naturel dans lequel chacun vit. Et on peut même aller plus loin. Si l'apôtre Paul l'écrit à des chrétiens en Galatie, c'est qu'il est possible d'être chrétien, d'avoir été donc adopté dans la famille de Dieu et pourtant vivre avec la mentalité d'un esclave. C'est possible, puisqu'on le voit ici, d'être chrétien et de vivre avec la mentalité d'un esclave. On vit notre relation avec lui comme des concessions, des donnants-donnants, des compromis, des efforts qu'on est prêt à faire. Ok, mais c'est pas facile, hein? Il y a comme une anxiété, un fardeau qui est là, qui est pesant. Même pour des chrétiens, on peut malheureusement vivre dans cet état d'esclavage alors qu'on a été libéré. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul passe ensuite à la condition d'un enfant de Dieu. Il veut rappeler ce qui s'est passé. Jeudi dernier, le Sénat examinait un projet de loi qui en fait a été déjà à peu près dans la même dimension proposée en 2012. Et ça rejoint la préoccupation à la fois de la gauche et de la droite de faciliter l'adoption dans des familles d'accueil pour des enfants qui ont grandi dans une famille biologique où il y a menace pour leur vie, précarité, ils ont été peut-être délaissés ou ils ont subi des violences. L'idée dans ce projet de loi, c'est qu'il n'y ait pas maintien à tout prix la priorité de la famille biologique. S'il y a une possibilité d'adoption, eh bien, elle devrait être envisagée pour éviter que l'enfant se retrouve dans une situation difficile. Si on se met dans la peau d'un enfant qui justement a été retiré d'une famille, imaginez la situation, vous êtes accueilli dans une famille et vous vous demandez, ça va durer combien de temps? Est-ce qu'à un moment donné, il y aura ce basculement et je vais retourner dans la situation d'avant? Ou est-ce qu'on va m'envoyer de famille en famille et je serai dans un statut de résident temporaire un peu partout? Ou alors est-ce qu'au contraire, je pourrais expérimenter le fait d'être adopté dans cette famille où je me sens bien, où je me sens en sécurité, où je me sens aimé, et pas avoir le statut d'un enfant qui passe d'un foyer à un autre, mais d'être là comme un enfant pour toujours, jusqu'à ma mort, enfant dans cette famille. C'est différent d'un regard sur le calendrier, à savoir, à ne pas savoir si on va être déplacé ou pas. Et après avoir parlé de la situation de départ, de l'esclavage, pour chaque être humain, il y a un changement notoire. Verset 4, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Alors c'est vrai, au départ, je trouvais que ça avait l'air simple, quand je pensais au message au départ. Puis après, je suis rentré dans cette phrase, je me suis dit, c'est chargé au niveau des termes et du contexte, des images. Alors on va avancer pas après pas. Peut-être pour vous, c'est simple, mais moi, en fait, c'est ce que je pensais au départ. J'ai vu que c'est, pour moi, en tout cas, c'était plus compliqué. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, Dieu a été prêt à payer le prix fort pour nous libérer de notre esclavage. Lorsque les temps furent accomplis, la loi de Moïse, pendant 13 siècles, elle a joué son rôle de révélateur. Elle a montré notre incapacité, ou plutôt l'incapacité du peuple d'Israël de vivre selon cette loi. Et au moment fixé, dans l'attente d'une intervention, Dieu est intervenu. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, trois facettes. Il est le Fils préexistant, il est envoyé, il existait déjà. En même temps, il va naître d'une femme, il va être véritablement un humain, à la fois Dieu et humain. Il va se soumettre en tout à la loi, l'accomplir. Autrement dit, Jésus est pleinement habilité pour sa mission. Le théologien anglais John Stott le met en évidence dans ses différentes facettes en disant « S'il n'avait pas été un homme, il n'aurait pas pu racheter des hommes. S'il n'avait pas été juste, il n'aurait pas pu racheter des hommes injustes. Et s'il n'avait pas été le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu racheter des hommes pour Dieu, ni en faire des fils de Dieu. » Et on réalise, alors qu'on découvre ce glissement, ce changement radical, qu'il y a deux actions qui sont nécessaires. La rédemption et l'adoption. deux métaphores qui sont utilisées pour décrire le statut des enfants de Dieu, ce qui s'est opéré, ce qui a été opéré pour eux. Pour comprendre la rédemption, il va falloir aller sur un marché au 1er siècle pour y voir des esclaves être vendus. Pour comprendre l'adoption, il va falloir se rendre, là encore au 1er siècle, dans une maisonnée où il y a des esclaves qui sont là, mais qui vont être adoptés et recevoir le statut de fils. Au marché, on y trouve donc des esclaves qui sont vendus, qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes et qui sont rachetés par d'autres. C'est ce qui se passe. Dans la riche propriété, là, on a un esclave qui est là, mais qui va recevoir le statut d'enfant, de fils, d'héritier. Et ce n'est pas explicite ici, mais on retrouve ce qu'il a fallu en Jésus dans ce commentaire de Jean Calvin sur les Galates. Il rachète le captif en se constituant caution à sa place. En se liant, Jésus, il délie l'autre. De même, Christ a voulu être soumis à la loi afin qu'il nous acquît l'affranchissement. Il a fallu cet échange, il a fallu cette rançon en la personne de Jésus. Maintenant, c'est important de réaliser que ce n'est pas simplement une rédemption. On pourrait imaginer que Dieu intervient dans la vie d'une personne et dit « Moi, je vais faire table rase sur le passé. Tu étais esclave du péché, je te libère, tu es pardonné. On ne parle plus de ton passé. Mais à partir de maintenant, tu vas devoir faire des efforts pour vivre une vie juste. Tu vas devoir filer droit. Tu vas devoir, sur la base de tes propres efforts, vivre cette vie juste. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme s'il y avait un demi-salut, pardonné du passé, mais à partir de là, il va falloir baser tout sur nos efforts. On serait en quelque sorte seul, livré à soi-même. Ce n'est pas ce qui est décrit ici. Il n'y a pas qu'une libération. Dans ce cas-là, il y aurait toujours l'anxiété, le fardeau, il serait toujours là. On se demanderait pour l'avenir ce qui va se passer. Mais ici, il y a le statut du fils qui nous est donné. Ce n'est pas simplement quitter la condition d'un esclave, c'est recevoir le statut de fils, d'héritier. Comme quelqu'un qui recevrait la Légion d'honneur, qui vous la donne, et qui veut que vous puissiez, là où vous allez, être vu comme quelqu'un qui a reçu cette Légion d'honneur. Vous allez pas simplement être pardonné de vos erreurs passées, mais recouvert d'une justice que vous n'aviez pas par vous-même et qui garantit votre avenir. L'apôtre Paul ici fait appel à notre intellect, à notre réflexion pour nous aider à voir quelque chose d'objectif qui a été fait dans l'histoire. Et c'est cette référence, lorsque le moment est arrivé, on voit une référence à l'histoire. Mais il veut aussi quelque chose qui soit subjectif et qu'on puisse expérimenter de cœur. Au verset 6, c'est parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». L'apôtre Paul écrit cette lettre en grec. Qu'est-ce qui lui arrive là? Il dérape avec sa plume. Il écrit en araméen tout à coup. Abba, c'est de l'araméen. Est-ce qu'il il s'est emmêlé les pinceaux? C'est volontaire. Pourquoi? Parce que celui qui disait justement Abba et qui détonnait avec tous ceux qui s'adressaient à Dieu, c'est Jésus. Quand il s'adresse à Dieu dans ses prières, il parle « Abba, cher Père ». Ce relationnel très proche qu'il a avec le Père, c'était inédit. Les disciples en sont surpris, tout le monde est surpris. Et pourtant, c'est ce qu'il veut nous faire vivre, nous faire goûter, ce privilège de pouvoir nous adresser à Dieu en disant « cher Père », avoir cette relation. Et ce n'est pas simplement le terme, c'est aussi pouvoir le crier comme un enfant qui crie dans une situation compliquée, difficile. Crier Abba Père. peut-être même un moment de honte, un moment où on sent détresse, désespéré, pouvoir crier « Abba Père ». C'est l'expérience qui est accordée à ceux que Jésus sauve. Le Fils a accompli une œuvre extérieure, objective, dans l'histoire. Et le Saint-Esprit accomplit une œuvre intérieure, subjective, dans notre être. Et les deux sont complémentaires. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Est-ce que je sers Dieu comme un esclave? Est-ce que je vois ma relation avec Dieu comme un esclave? Il y a ici une invitation à la remise en question dans notre manière de vivre vis-à-vis de Dieu. J'ai entendu une citation qui m'a frappé d'un théologien qui s'appelle John Owen, qui a vécu au XVIIe siècle. Le plus grand chagrin et le fardeau... Alors, excusez-moi. Ouais, il y a des fautes de frappe là-dedans. Je vais la lire ici. Et le fardeau que vous pouvez imposer sur le Père, la méchanceté la plus grande dont vous pouvez, que vous pouvez lui faire, excusez-moi, c'est le traducteur Google, c'est de ne pas croire qu'il vous aime. Le plus gros fardeau, le plus grand chagrin, la plus grande méchanceté que vous pouvez faire au Père, vous auriez imaginé quoi à la fin de la phrase? Tuer quelqu'un? Commettre une atrocité? En fait, c'est de ne pas croire en son amour, selon lui. Il est allé chercher un apôtre Paul qui lui avait tué, qui lui avait persécuté l'Église. Là, pour les fêtes de fin d'année, on va se rendre dans ma famille, chez mes parents. Et je suis tellement reconnaissant pour l'amour qu'ils ont eu vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes sœurs quand j'ai grandi. L'amour, la fidélité qu'ils ont témoigné au fil des années. La sécurité qu'ils nous ont donnée. Dans un extrême, je pourrais y aller en me disant « Je ne leur dois rien, je n'ai pas besoin de leur montrer d'affection. » Et en fait, je vais vivre ces quelques jours chez eux comme s'ils n'existaient pas. Ça serait un extrême dans lequel pas mal de personnes, et même moi, à certains moments, je me retrouve avec Dieu, vivent comme s'ils n'existaient pas. Oublier tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais dans un autre extrême, je pourrais aller chez mes parents et en fait montrer que je suis dans une crainte constante, que je veux me soumettre à toutes sortes de règles qu'ils avaient quand j'étais tout petit. La manière dont je me tiens à table, avoir peur de demander pour quelque chose, est-ce que je peux prendre quelque chose dans le frigo, ou est-ce que je peux m'allonger sur le canapé, ou est-ce que je peux faire ci, est-ce que... Au bout d'un moment, les parents commenceraient à se demander, mais est-ce qu'on est encore dans une relation de parents, d'enfants? Ou est-ce qu'il a peur de nous? C'est cette même relation libre que Dieu nous invite à vivre avec lui. Comme un enfant qui se sent en sécurité avec ses parents qui l'ont aimé. Je sais que dans les situations qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas toujours eu des parents qui nous ont aimés. Mais celui-ci est un Père qui nous sécurise par son amour et qui nous invite à goûter à une saine liberté. Dans ma vie chrétienne, est-ce que je vis dans la peur de ne pas être à la hauteur? Et à la moindre erreur que je fais, je tremble, j'ai peur du lendemain, j'ai peur des conséquences de mes fautes. Alors que Dieu nous aime et veut nous traiter comme un fils, nous a promis un héritage. Celui de son fils. Est-ce que je vis comme si Jésus m'avait pardonné mes fautes passées, mais à partir de maintenant, tout ce que je le fais sur la base de mes efforts et je dois tendre à faire ce que je dois faire sur la base de mes mérites, de mes efforts? Est-ce que je suis encore dans la mentalité d'un esclave? Et dans la prière, et on termine avec cela, comment est-ce que je peux vivre cette prière différemment? Comment est-ce que je peux goûter à cette expérience du Saint-Esprit en moi qui me permet de crier spontanément, comme un enfant qui spontanément peut dire à son père ou à sa mère, j'ai faim, j'ai besoin de toi, viens, je t'aime. Spontanément vivre cette relation avec le Père, sans avoir à mettre toutes les formules et les phrases dans le bon ordre. Si c'est vrai qu'on veut être basé sur la vérité, on ne veut pas être rempli de règles dans notre manière de nous approcher de lui dans la prière. Il y a cette liberté de venir à un Père en toute simplicité, comme un enfant qui ne va pas mettre les formes, bouche barbouillée, goutte au nez, les cheveux en pétard, et qui va tout simplement venir se blottir dans nos bras. C'est cette assurance-là que Dieu veut pour ses enfants. C'est cette vie-là que Dieu veut pour ses enfants, cette sécurité-là. Et si on la goûtait dans la prière, et si on la goûtait dans notre marche avec lui, j'invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous te voyons comme un maître. Ça fait penser à ce fils aîné dans la parabole qui voyait son père comme un maître, qui l'a servi toutes ces années et qui ne lui a même pas donné ce qu'il voulait. Accorde-nous la grâce de savoir qu'une rançon a été payée, que nous avons reçu la condition de fils d'héritier. À cause de cet échange que Jésus a accepté de vivre. Et confiant dans ce qu'il a fait dans le passé, et confiant de ce que tu as promis pour notre avenir, accorde-nous la joie, Père, de saisir ce privilège d'être enfant de Dieu. Je te prie pour les personnes qui ne l'auraient pas encore saisi, que tu ouvres leurs yeux, comme nous avons besoin de les ouvrir sur nos esclavages, et nous permettre de goûter à cette libération et à cette adoption. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.